Pour l'entraînement, parce que je me suis dit c'est le dernier jour des JO, alors on va faire un peu de sport ensemble ce matin. J'espère que vous êtes en forme. Bon, il fait un peu chaud, c'est vrai, hein, ils annoncent un peu de la canicule. Bon, je vois que plusieurs ont oublié leur tenue de sport, c'est pas très grave. Mais allez, pour ceux qui le peuvent, qui ont encore de la force, vous pouvez peut-être vous lever à votre place. On va commencer quelques petits échauffements. Voilà, ça va, vous êtes en forme. Bon, on peut se bouger un peu, hein, se réveiller. Alors, premier exercice d'échauffement, on commence doucement. On va commencer par 7 tours avec notre langue dans la bouche. Faites tourner 7 fois votre langue dans la bouche. Allez, on y va, hein. C'est bon? Deuxième petit exercice, on va maintenant échauffer nos yeux. C'est un exercice plutôt d'endurance cette fois, mais on va commencer doucement. Alors maintenant, vous allez ouvrir grand vos yeux et les maintenir ouverts vers la croix sur le mur pendant 10 secondes. 10 secondes, ça va, hein? Allez, top chrono. 9, 8. Voilà, bravo. Troisième organe que Dieu nous a donné qu'on peut s'échauffer, ce sont les mains. Et un petit exercice qui est très simple qu'on va faire ensemble, vous pouvez le reproduire à la maison, dans le métro, n'importe où. C'est assez génial, vous allez voir. On va prendre une Bible, alors si ce soit une Bible en papier ou en votre smartphone ou ce que vous utilisez comme Bible, si vous l'avez sous la main, si vous ne l'avez pas prise avec vous, ce n'est pas grave, vous faites semblant, ok. Mais on va échauffer ses mains et on va prendre notre Bible et on va l'ouvrir à 1 Corinthiens 9 au verset 24. 1 Corinthiens 9 au verset 24, voilà, alors, on s'échauffe un peu les mains ou les doigts pour ceux qui ont une version connectée. 1 Corinthiens 9, verset 24. Ça va, vous êtes tous chauds, là? Et dernière chose, peut-être la plus importante, on va échauffer nos oreilles. Donc pour cela, merci de faire silence et d'ouvrir grand vos oreilles. Et ça y est, vous êtes prêts pour écouter ce que Dieu veut nous dire ce matin. Alors vous pouvez vous asseoir si vous voulez. Et écouter la parole d'un grand et valeureux athlète qui a couru avec persévérance afin d'obtenir le prix, c'est l'apôtre Paul, qui écrit sous l'inspiration de l'Esprit. 1 Corinthiens 9, versets 24 à 27, on va lire ça ensemble. « Ne savez-vous pas que sur un stade, tous les concurrents courent pour gagner, et cependant, un seul remporte le prix. Courez comme lui, de manière à gagner. » Tous les athlètes s'imposent une discipline sévère dans tous les domaines pour recevoir une couronne, qui pourtant sera bien vite fanée. Alors que nous, nous aspirons à une couronne qui ne se flétrira jamais. C'est pourquoi, si je cours, ce n'est pas à l'aveuglette, et si je m'exerce à la boxe, ce n'est pas en donnant des coups en l'air. Je traite durement mon corps, je le maîtrise sévèrement, de peur qu'après avoir proclamé la bonne nouvelle aux autres, je ne me trouve moi-même disqualifié. Je vous invite à prier. Seigneur, merci pour ta parole qui nous interpelle, qui veut nous parler ce matin encore. Et Seigneur, nous te demandons maintenant de nous aider à ouvrir nos cœurs, notre esprit à ta parole, que ton Saint-Esprit vienne illuminer notre intelligence, vienne illuminer notre compréhension. Et que cette parole vivante puisse impacter nos vies et avoir aussi une conséquence pour notre vie au quotidien. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Voilà, vous voyez une prédication un peu de circonstance. On est à la fin des Jeux Olympiques. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu la chance d'aller voir des épreuves en vrai, des JO. Avec mon fils Ethan, on est allé voir les athlètes au Stade de France mardi matin. Pour les qualifications, et c'était assez impressionnant. Puis hier matin, j'ai mis mon réveil, je suis allé voir aussi ceux qui passaient à Boulogne, les marathoniens. Alors pas ce matin, mais là c'était les femmes ce matin, et hier je suis allé pour voir, il y avait les hommes qui passaient à Boulogne. Et c'est impressionnant, hein, toute cette organisation, même si ça nous fait un peu râler, parce que pour certains, je sais qu'ils... Et c'était compliqué de venir en voiture aujourd'hui avec tout cela, mais il y a quand même une organisation énorme autour de tous ces Jeux olympiques. Il y a les caméras de télévision quand vous allez dans le stade, il y en a partout. Il y a des animations, il y a des supporters qui viennent du monde entier. Vous avez, nous, on avait des Allemands, des Belges, des Indiens, des, voilà, des Britanniques. Il y avait, c'était la fête avec des gens du monde entier, mais... Ce qui passionne les foules, bien entendu, pourquoi est-ce qu'on vient voir on vient là, ben c'est les sportifs. C'est les sportifs qu'on vient voir. Ce sont eux les stars du spectacle. Eux qui se sont entraînés durement pendant des années, qui ont traité durement leur corps pour pouvoir, à l'occasion d'une compétition, donner le meilleur d'eux-mêmes au moment clé. Alors l'apôtre Paul, lui, il n'a pas connu les Jeux olympiques modernes, bien sûr, hein, ça n'existait pas de cette manière à l'époque, mais il y avait aussi déjà des compétitions athlétiques qui faisaient certainement la une des journaux corinthiens, qui étaient aussi probablement discutées au cœur des débats sur les fans de sport de l'époque. Et l'apôtre Paul, lui, il a séjourné, on le sait, à Corinthe, donc il écrit à des chrétiens qui sont à Corinthe, qui étaient en Grèce, hein. À Corinthe, il a séjourné au moins un an et demi, avant d'écrire cette lettre. Quand il écrit la lettre, il n'est plus à Corinthe, bien sûr. Mais quand il a vécu à Corinthe, il a certainement vécu cette ferveur qui entourait les Jeux isthmiques. Les Jeux isthmiques, c'était des Jeux sportifs qui avaient lieu tous les 2 ans à Corinthe, ou juste à côté de Corinthe. Et là, vous aviez les meilleurs athlètes de tout l'Empire romain qui se retrouvaient pour s'affronter à la course, au saut, à la lutte, à la boxe, au lancer de poids, au javelot, ça existait déjà à l'époque. Et les participants à ces jeux, on le sait, ils avaient des mois et des mois d'entraînement, un entraînement intensif pour avoir l'honneur d'être acclamés par la foule et éventuellement remporter la couronne du vainqueur, des couronnes qui étaient végétales, hein, qui étaient faites avec des branches ou des feuilles à l'époque. Cette compétition... Elle était accompagnée de nombreuses festivités, c'était vraiment des grandes fêtes, il y avait des gens qui venaient de partout pour assister aux Jeux, un peu comme ce qu'on vit à Paris en ce moment. Et faute d'hôtels à proximité, souvent les participants logeaient dans des tentes, ils faisaient du camping pendant la durée de l'événement, et vous savez que Paul, c'était quoi son métier? Il fabriquait des tentes. Alors probablement qu'il avait du travail aussi dans ce cadre-là, mais aussi des occasions pour annoncer la bonne nouvelle, hein, de l'Évangile. Et c'est intéressant parce que lorsque Paul écrit à ces chrétiens qui vivaient à Corinthe, qui connaissaient un peu ces épreuves sportives, athlétiques, eh bien, il compare la vie chrétienne, vous avez vu, à la vie d'un athlète. La vie avec le Christ, c'est comme une course, dit-il, ou un combat de boxe, ce qui veut dire que le repos sur une plage de sable fin avec les cocotiers, le chant des... Voilà, c'est pas encore pour maintenant, hein, même si on a le droit d'avoir des vacances de temps en temps. Mais dans notre vie avec Christ, nous sommes appelés à adopter, dit-il, le style de vie d'un athlète, avec tout ce que ça implique. Une discipline de vie motivée par un seul objectif, gagner la course et remporter le prix. Alors pour ceux qui, comme moi, n'est pas des grands sportifs, ça peut sembler un peu un défi, là, hein. Mais ce que ce texte nous rappelle, c'est que notre course au service de Jésus-Christ, c'est une course qui est bien plus importante que les courses que peuvent mener ou les épreuves sportives que peuvent mener ceux qui participent aux Jeux olympiques. Alors, est-ce qu'on est prêt à relever le défi? Première chose que l'on peut remarquer dans ce passage, c'est la place que Paul donne au corps. Je ne sais pas si vous avez remarqué, au verset 27, il dit « Je traite durement mon corps, hein, je le maîtrise sévèrement. » Il y a d'autres passages où l'apôtre Paul nous invite à laisser le Saint-Esprit renouveler nos pensées. Il parle du cœur aussi, il parle de, voilà, de notre être intérieur. Hein. Mais ici, il rappelle que le corps a aussi un rôle à jouer dans la vie chrétienne. Et dans la première épître aux Corinthiens, c'est quelque chose qui revient à plusieurs reprises. Peut-être parce que les Corinthiens, c'était des Grecs et ils avaient tendance peut-être à dévaloriser le corps au profit de l'âme ou de l'esprit. Mais toujours est-il que Paul leur rappelle que le corps, il a la place dans le plan de Dieu. Au chapitre 15, vous avez ce passage sur la résurrection où Paul rappelle que nous ressusciterons avec un corps. À la fin du chapitre 6, Paul aborde la question de la sexualité et il dit, voilà, l'acte sexuel consiste en l'abandon de son corps à l'autre et ça a des conséquences spirituelles, dit-il. Si l'acte sexuel a lieu en dehors du cadre du mariage, ça peut avoir des conséquences néfastes. Parce que, dit-il, 1 Corinthiens 6, je crois que c'est verset 9 ou 15, « Ne savez-vous pas que votre corps, verset 15, voilà, que vos corps sont les membres du Christ, vos corps ?» Et verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» Non pas notre âme ou notre esprit, notre corps. Deux images fortes hein, qui nous rappellent que le corps a un rôle à jouer dans notre relation à Christ. C'est une partie du corps de Christ, qui est l'Église, hein, le corps du Christ. C'est aussi le temple où réside l'Esprit de Dieu lui-même, l'Esprit Saint. C'est pas rien. Et donc, ce que Paul rappelle, c'est que ce que nous faisons de notre corps, ou ce que nous ne faisons pas, de notre corps a aussi des conséquences pour notre santé spirituelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit tout au long de la Bible, que Dieu n'a pas seulement un plan pour notre âme ou notre esprit, mais il a un plan pour tout notre être, y compris notre corps. Dans les premiers chapitres de la Genèse, on voit que Dieu a créé l'être humain. Et c'est même son chef-d'œuvre. On est le chef-d'œuvre de la création de Dieu, selon la Bible. Or, lorsque Dieu crée l'être humain, il ne crée pas des âmes qui planent dans le vide intersidéral. Hein. Il crée des hommes et des femmes qui ont un corps. Il les place dans un merveilleux jardin, non pas pour simplement qu'ils puissent méditer tranquillement, mais pour qu'ils cultivent le jardin avec leurs mains, hein, qu'ils mangent avec leur bouche des fruits du jardin. Et lorsque Dieu crée le couple, la dimension du corps a aussi sa place, puisque les deux sont appelés à, non pas à faire une seule âme, dit le texte, mais une seule chair. Je ne fais pas de dessin. Malheureusement, on connaît la suite de l'histoire. Hein. L'être humain a préféré n'en faire qu'à sa tête et s'est détourné de celui qu'il a créé, qui est la source de vie. Ça, c'est le péché qui est entré dans le monde. Et le corps humain subit les conséquences du péché. Et il y a deux conséquences principales au péché sur notre corps humain. Première chose, c'est que notre corps, quand il est déconnecté, on va dire, de celui qui est la source de la vie, de Dieu, et ils sont chassés du jardin, Adam et Ève, ils n'ont plus droit à l'arbre de vie, le corps se met à dysfonctionner. Le corps tombe malade, il nous fait souffrir, et au final, il s'arrête un jour ou l'autre de fonctionner, causant la mort. Ça, c'est une conséquence générale du péché. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément mon péché qui cause ma maladie directement, mais c'est de façon générale le péché qui a atteint toute la création, vient affecter aussi mon corps et m'amène à la mort physique. Ça, c'est une conséquence générale, mais il y a aussi une autre manière dont le péché vient affecter notre corps. Lorsque l'être humain ne laisse plus l'Esprit de Dieu orienter son corps, il va utiliser le corps pour faire du mal. Nous utilisons notre langue pour blesser, pour maudire, pour humilier. Nous utilisons nos yeux pour convoiter, pour regarder des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Nous utilisons nos mains pour frapper, pour détruire. Nous faisons un très mauvais usage du corps que Dieu nous a donné. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu a un plan pour restaurer notre corps qui est atteint par le péché. Et c'est pour cela que Dieu s'est fait non pas seulement une âme sur cette terre en Jésus-Christ, mais il s'est fait chair. Jésus-Christ, Dieu qui est un être spirituel, est venu en chair et avec un corps sur cette terre. Hein. Il a été meurtri dans son corps à notre place. Il a souffert physiquement sur la croix, en subissant notre mort, la mort que nous aurions dû subir à sa place. Il a porté nos péchés et les conséquences de nos péchés sur son corps. Et ça se manifeste. Alors qu'est-ce que ça vient apporter, hein? Dans les deux domaines que j'ai évoqués tout à l'heure, on voit que Jésus apporte quelque chose. Premièrement, si nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, on a l'espérance au dernier jour d'être renouvelé physiquement et de ressusciter avec un corps renouvelé pour la vie éternelle, nous dit la Bible. Et cette espérance, voilà, un corps qui subit plus la maladie, qui subit plus la souffrance, un corps qui est aussi éternel. Et c'est ça notre espérance pour le corps que présente la Bible. Cette espérance qui se réalise au dernier jour, hein, dans la nouvelle création, se laisse toutefois entrevoir dès aujourd'hui, à travers aussi la façon dont Dieu peut intervenir dans notre santé, sur notre corps, comment il peut guérir de façon parfois grâce aux anticorps qu'il a placés en nous, grâce à la médecine qui est aussi un don de Dieu, mais aussi de fois de manière miraculeuse, qui nous rappelle que Dieu voilà, nous fait grâce et veut nous faire grâce en Jésus-Christ. Ça, c'est la réponse à la première conséquence du péché sur notre corps. Mais Dieu se préoccupe aussi de la deuxième conséquence du péché. C'est de ça qu'on va parler plus tôt aujourd'hui. L'utilisation que moi je fais de mon corps. Dès maintenant. Et pour cela, eh bien, on sait que si nous plaçons notre foi en Jésus-Christ, Dieu veut nous donner son Saint-Esprit. Et il veut faire de notre corps le temple du Saint-Esprit, on l'a vu. Je ne sais pas si on réalise ce que ça signifie. Dieu lui-même, par son esprit, demeure dans notre corps. Vous réalisez un peu ça? C'est quand même, on le dit souvent, hein, Dieu habite en moi, ou l'esprit de Dieu habite en moi, on le chante même. Mais est-ce qu'on réalise ce que ça veut dire? Et comme un coach sportif, hein, c'est le Saint-Esprit, un peu notre coach, qui veut nous utiliser, qui veut aussi nous aider à bien utiliser notre corps pour ce pourquoi il a été créé. Et pourquoi est-ce que notre corps a été créé? Pour rendre gloire à Dieu. Et donc, dans la course de la vie, on a aujourd'hui la meilleure des coachs qui est là, toujours à nos côtés. La question que j'aimerais nous poser ce matin et sur laquelle on va continuer, c'est est-ce que nous sommes prêts à laisser le Saint-Esprit nous orienter dans l'utilisation de notre corps? Est-ce que notre corps, nous le mettons pour la gloire de Dieu? Alors ce matin, je vous propose de commencer par faire un petit diagnostic, un petit bilan de santé, non pas sur la maladie, on va dire directement, mais sur comment j'utilise mon corps. Et c'est quelque chose qu'on peut faire facilement, vous pouvez faire à la maison aussi tous les jours, quand vous prenez votre douche ou votre bain, examiner de la tête aux pieds et se dire, voilà, quel usage je fais de mon cerveau? Est-ce que je l'entraîne à méditer pour la gloire de Dieu, par exemple? Quel usage je fais de mes yeux? On est une société où l'image est très importante, et les écrans sont partout. De quoi est-ce que je nourris mon regard? Est-ce que c'est de choses belles et bonnes qui rendent gloire à Dieu? De la parole de Dieu? Ou de choses qui sont au contraire contre sa parole? La violence, les horreurs en tout genre, d'images obscènes, dégradantes. Comment est-ce que j'utilise ma langue? Voyons. C'est un peu un scanner. Est-ce que je l'utilise pour bénir, pour encourager, pour faire du bien autour de moi? Ou est-ce que je l'utilise pour blesser, pour maudire? Comment est-ce que je gère ma bouche et mon estomac? C'est la Bible nous encourage à trouver la joie dans un bon repas ou un bon verre, c'est quelque chose qui est valorisé par la Bible. Mais elle dénonce aussi les excès de table, l'ivrognerie. Ce sont... Paul en parle hein, comme des péchés à côté de l'immoralité, voilà, c'est des péchés qui sont mentionnés, parce que ça met à mal notre corps, notre santé et notre vie spirituelle. On pourrait poursuivre l'examen, vous voyez, faire un peu une sorte de scanner, essayer de penser à comment j'utilise tous les organes du corps que Dieu m'a donnés. Est-ce que j'ai besoin peut-être de demander pardon à Dieu, parce que j'ai utilisé de manière malsaine mon cerveau, mes oreilles, mes yeux, ma bouche, mon ventre, mes mains, mes organes sexuels, mes pieds. C'est bien de faire ça de temps en temps, faire une petite radioscopie de son corps, hein, au rayon de la parole de Dieu. Non pas au rayon X, hein, mais au rayon de la parole de Dieu. Est-ce qu'on a le courage de se laisser examiner par le regard de Dieu ? C'est important de le faire régulièrement, de demander pardon au Seigneur aussi pour, et de lui demander aussi son aide pour changer, l'aide de son esprit. Donc d'abord, faire un petit diagnostic, un petit bilan de santé. Et une fois qu'on a posé le diagnostic, il ne suffit pas de reconnaître ses erreurs et de demander pardon, hein. C'est une première étape, mais il faut aussi entrer en mode, on pourrait dire, phase de combat, hein. Ou plutôt, pour reprendre l'image de Paul, adopter une discipline de vie qui est comparable à celle d'un athlète de haut niveau. Une discipline comme un athlète. C'est ce que Paul dit, hein, dans ce passage. Paul, il prend cet exemple des athlètes qui existaient à l'époque, nous qu'on a pu voir pendant les Jeux Olympiques, hein, qui voilà, arrivent à une certaine maîtrise de soi, de leur corps, ils arrivent à le pousser à la limite, à force d'entraînement, à force de voilà, c'est beaucoup de travail derrière, hein, ces exploits sportifs. Pour pouvoir courir de manière performante, pour pouvoir frapper avec précision, comme Paul le dit pour les boxeurs. Les athlètes, à l'époque déjà, avaient beaucoup d'entraînement. On sait qu'en général, ceux qui faisaient des compétitions comme celles qui avaient lieu à côté de Corinthe, ils s'entraînaient au moins pendant 10 mois, pendant toute une période, 10 mois à temps plein. Ils avaient des sponsors qui leur permettaient de vivre pendant ces 10 mois, des gens riches qui les sponsorisaient pour qu'ils puissent s'entraîner de façon drastique, rigoureuse, difficile, à temps plein. Et c'était, voilà, c'était vraiment quelque chose de discipline stricte. Et Paul prend cet exemple-là, et il nous dit, voilà, en tant que chrétien, on est appelé à adopter aussi une discipline de vie telle que celle d'un athlète qui court les Jeux Olympiques. Hein. Voilà ce que nous dit Paul. Alors c'est vrai que la discipline personnelle, vous savez, ce n'est pas forcément un mot trop à la mode, hein, dans notre culture latine en particulier. On préfère parfois les prédicateurs qui nous promettent que si l'on fait la bonne prière, si on appuie sur le bon bouton, le bon nombre de bons billets dans la corbeille, alors ça va rouler, ça va marcher, les bénédictions vont tomber, tout seul. D'autres font de la grâce un prétexte aussi pour se tourner les pouces. Mais là, Paul nous dit, ouais, il y a aussi des efforts à faire. Hein. Et pourtant, Paul, c'est le champion de la grâce. Hein. Il n'est pas en train de nous dire, voilà, faites des efforts pour être sauvés. Au contraire, Paul critique très sévèrement ceux qui pensent que par leurs œuvres, ils peuvent être sauvés, ils peuvent mériter leur salut. Mais Paul se montre tout aussi sévère envers ceux qui pensent que la grâce est une excuse pour faire tout ce qu'on veut, et n'importe quoi, et attendre que tout tombe du ciel miraculeusement. Et en fait, Paul nous dit que la grâce que nous bénéficions, le fait que Jésus-Christ soit mort pour nous et qu'on n'a rien à faire pour obtenir notre salut, ça doit nous amener à rendre grâce. Qu'est-ce que ça veut dire rendre grâce? Ben, louer Dieu, à l'adorer, à travers tout ce que l'on fait, à travers tout ce que l'on est. On a vu ça lors de l'étude biblique jeudi soir. On a vu ce verset de Romains 12, verset 1, qui dit « À cause des compassions de Dieu, hein, à cause de l'immense bonté de Dieu, dont Paul parle dans les chapitres 1 à 11, offrez vos corps, votre corps, là aussi il parle du corps, comme un sacrifice vivant, saint, et agréable à Dieu, qui plaise à Dieu. » Et ça sera un culte raisonnable. Vous voyez, les sacrifices qui sont ici, que Paul propose, ce n'est pas un sacrifice pour obtenir le pardon des péchés, mais un sacrifice de louange. Lorsque j'ai compris la grandeur, la profondeur de l'immense et incroyable grâce de Dieu, eh bien, je ne peux pas rester les bras croisés. Je vais me lever avec joie pour donner le meilleur de moi au service de celui qui m'a tout donné. Et Paul, vous voyez, c'est ça sa réflexion, c'est ça sa logique, c'est ça la logique de la parole de Dieu. Si Paul nous encourage aussi à adopter un mode de vie sain, je crois que ce n'est pas juste pour nous embêter, hein, ce n'est pas juste pour nous donner des principes contraignants, c'est aussi parce que ça nous permettra de courir plus facilement la course qui nous est proposée. Parce que si le salut est une grâce, si la vie éternelle nous est offerte sans qu'on ait rien à faire, sans aucun effort, la vie chrétienne, on le sait aussi, une course longue, éprouvante. Nous sommes appelés à adopter une discipline de vie qui nous permettra d'accomplir pleinement, sans trop de difficultés, ce que Dieu a prévu pour nous sur cette terre. La première chose qu'on peut faire, c'est réfléchir à un programme d'entraînement quotidien. Par exemple, on a fait un scanner tout à l'heure, on a dit, tiens, j'utilise un peu trop mes yeux pour regarder des choses qui ne sont pas trop à la gloire de Dieu, qui me sapent un peu le moral aussi parfois. Vous savez, même des fois, à trop regarder les journaux, ou si vous regardez les chaînes d'infos en boucle, des fois ça peut vous saper le moral, hein, parce qu'en général, on ne rapporte pas les bonnes nouvelles. À force, c'est, voilà, c'est toutes choses de choses. Et je peux me dire, voilà, j'ai constaté ce problème chez moi. Maintenant, quelle stratégie je vais mettre en place pour entraîner mes yeux à regarder ce qui est bon, à regarder ce qui est juste, à regarder ce qui est, rend gloire à Dieu? Qu'est-ce que je vais choisir de regarder, de lire au quotidien? Autre exemple, nous avons constaté que nous avons rendu notre corps dépendant à quelque chose de néfaste. Les problèmes de dépendance sont nombreux. Ça peut être l'alcool, le tabac, l'excès de nourriture, le café, la pornographie, ou même des fois un hobby. Hein. Des fois, un hobby peut prendre une place tellement grande, déraisonnable dans nos vies. Je sais pas, c'est bien d'avoir des hobbies, de faire du sport, des choses saines, mais parfois, ça prend toute la place et ça devient presque une dépendance. Quelle stratégie est-ce que nous allons mettre en œuvre pour nous débarrasser de ces mauvaises habitudes, hein ? Posez la question. Quelle solution on va prendre ? C'est important d'être pratique, hein, d'être concret, de mettre tout en œuvre pour faire de notre corps un temple magnifique, pour que le Saint-Esprit y demeure et y rayonne. Et une chose qu'on peut faire lorsqu'on réfléchit à cette question pratique, c'est aussi se rappeler que la course, la vie chrétienne, ce n'est pas une course en solitaire, c'est une course d'équipe. Et donc on peut aussi demander de l'aide à des frères et sœurs qui sont peut-être plus expérimentés. Aujourd'hui, c'est la mode des coachs, hein, d'avoir son coach personnel. Mais peut-être qu'on peut réfléchir dans le cadre de l'Église aussi, quelle est peut-être une personne de confiance à qui je pourrais rendre compte de mes progressions, et on pourrait prier ensemble, on pourrait s'encourager, il pourrait m'encourager dans mon cheminement. C'est bien connu, hein, la motivation est plus grande lorsque vous savez que vous devez rendre compte à quelqu'un aussi. Non pas pour vous avez quelqu'un qui vient pour vous enfoncer, hein, mais vraiment quelqu'un, un frère, une sœur de confiance avec qui on va cheminer, on va progresser ensemble, on va s'encourager. C'est important de s'encourager les uns les autres, de partager nos difficultés avec les frères et sœurs, de prier ensemble. Vous savez, dans la course chrétienne, il n'y a qu'un seul numéro un, hein, c'est Jésus-Christ. Nous, on est simplement des suiveurs. On suit Jésus-Christ, ça c'est dans l'Épître aux Hébreux, on court les yeux fixés sur Jésus-Christ. On est des suiveurs qui courent à la suite du Christ et on le fait tous ensemble, en équipe. Pour gagner le prix ensemble, hein. C'est pas moi je vais gagner et toi tu vas perdre. On n'est pas dans une course l'un contre l'autre. On court ensemble. Voilà, course d'équipe. Et troisième chose, n'oublions pas dans notre course de revêtir le survêtement Holy Spirit, Saint-Esprit, hein. Il est là pour nous aider dans notre course. C'est important d'écouter sa voix dans nos vies au quotidien, hein. Ses conseils. Et il est là pour nous rappeler. Je crois que c'est comme cette voix de la conscience, mais le Saint-Esprit est là aussi pour nous dire non, ça c'est pas très bon pour toi. Et lorsqu'il nous le dit, il ne faut pas faire la sourde oreille, mais voilà, l'écouter. Lorsqu'il prévient des dangers de telle attitude. Il peut aussi nous secourir, nous aider dans nos périodes difficiles. C'est vraiment le meilleur coach personnel. Mais pour cela, on doit être prêt à lui donner toute la place dans nos vies. Voilà donc un peu le programme que je vous propose faire un petit diagnostic, comment j'utilise mon corps, et puis entrer dans un programme un peu d'entraînement ou d'avoir une certaine discipline de vie pour pouvoir utiliser notre corps au mieux, selon ce que Dieu a prévu pour nous. Mais peut-être que vous allez vous dire, mais à quoi bon faire tout ça, hein? Pourquoi réaliser des efforts? Est-ce que c'est vraiment utile? Vous faites bien de poser la question, hein? Dans une course, c'est important de savoir pourquoi on court. Qu'est-ce qu'on a à gagner? Paul en parle aussi dans ce texte. La première chose, Paul n'en parle pas ici, mais d'autres passages de la parole de Dieu en parlent, c'est que je crois que si nous décidons d'utiliser notre corps à la gloire de Dieu, nous nous éviterons, premièrement, des difficultés. Parce que si, vous savez, c'est notre Dieu qui nous a créés, hein? C'est lui qui a créé notre corps. Et c'est lui qui a aussi livré le mode d'emploi dans sa parole. Je ne sais pas si certains aiment bien lire les modes d'emploi des appareils qu'ils achètent. En général, on ne le fait pas trop, hein. On dit, oh là là, c'est compliqué tout ça, hein. Je vais faire à ma manière, hein. Et puis on fait à sa manière et puis ça ne marche pas toujours. Ou alors ça marche jusqu'à ce que ça tombe en panne parce qu'on n'a pas suivi le mode d'emploi. Mais de la même manière, si vous décidez d'utiliser votre corps selon le mode d'emploi de la parole de Dieu, eh bien, vous vous éviterez un certain nombre d'ennuis. Ça, c'est une première chose que nous rappellent bien des passages de la Bible. Mais ce n'est pas non plus automatique, dans le sens que, d'ailleurs, Paul n'insiste pas sur cet élément. Il sait lui-même que, bien qu'il ait une discipline de vie qui s'impose, comme il le dit, ça ne lui a pas évité toutes les difficultés, qui ne sont pas liées à lui, mais à son environnement. Il a subi aussi la prison, les coups de bâton, les insultes, beaucoup de souffrances, il en parle largement dans ses lettres, liées à son ministère. Et bien sûr, sa discipline personnelle, on peut penser que ça lui a permis de persévérer malgré cela. Mais ce n'est pas cet aspect-là qu'il met en avant dans ce texte. Dans notre passage, Paul nous parle encore d'une autre récompense, d'une couronne, dit-il, qui nous attend au-delà de notre vie présente. Parce que la parole de Dieu promet une récompense à celui qui aura servi fidèlement le Seigneur dans tous les domaines de sa vie. Une récompense eschatologique, c'est-à-dire qui nous attend dans la réalité dernière, hein, après le retour de Jésus. Un jour, nous nous retrouverons face à notre Seigneur avec cet espoir de l'entendre dire « Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître ». Et la plus belle des récompenses, vous savez, c'est de passer l'éternité dans la présence de notre Sauveur bien-aimé, dans la présence du Dieu Tout-Puissant, là où se trouve la vie en abondance. Il n'y a rien de meilleur. C'est ça le bonheur suprême. Et notez aussi que la récompense dont nous parle Paul, dit-il que c'est une récompense éternelle. La couronne qui va récompenser notre course, ce n'est pas comme les couronnes qu'il y avait à l'époque qui étaient périssables parce que c'était fait c'était végétal, hein, c'était fait avec des feuilles d'arbres ou avec des feuilles de laurier ou avec des branches. Au bout de quelques jours, quelques semaines, hein, ça fane. Et puis la couronne, à la fin, il ne reste pas grand-chose. Non, dit-il, la couronne, ce n'est pas celle-là qui nous attend. C'est une couronne impérissable, qui ne se flétrit jamais, dit-il. Alors lorsque, au cours de votre entraînement, hein, vous allez trimer un peu pour maîtriser vos yeux, qui veulent à tout prix se dérober de l'essentiel, lorsque vous lutterez pour contrôler votre langue, qui a tellement envie de sortir une méchanceté ou une médisance, ou lorsque vous aurez besoin de mettre tous vos efforts pour entraîner votre corps à agir pour la gloire de Dieu, et bien relisez tous ces passages qui nous parlent des promesses qui sont faites aux vainqueurs. Pensez à la fête qui vous attendra lorsque vous serez enfin avec votre Seigneur, vous aurez achevé la course. Pensez à la fierté que vous éprouverez lorsque Jésus-Christ lui-même citera votre nom en exemple devant le Père Céleste et devant les anges, comme parle la Bible aussi, dans l'Apocalypse en particulier. Imaginez les célébrations qui accompagneront la victoire. Pensez au festin, au temps de louange incroyable, à la joie extraordinaire. Et entendez cette parole du Seigneur qui nous dit en Apocalypse 21, verset 7, c'est tout à la fin de la Bible, hein, « Tel sera l'héritage du vainqueur, je serai son Dieu et il sera mon fils. » Amen. Voilà la récompense qui est pour nous. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous sommes là devant toi, te remercions pour ta parole, qui nous rappelle la place que tu donnes à notre corps. Et Seigneur, nous savons que nous n'utilisons pas toujours notre corps pour ta gloire. Alors Seigneur, nous te demandons vraiment pardon. Pardon pour nos péchés, pardon pour la façon dont nous utilisons nos yeux, notre bouche, tous nos organes pour parfois faire du mal ou faire des choses qui ne sont pas à ta gloire, Seigneur. Nous voulons être honnêtes avec toi ce matin, Seigneur, et te demander pardon. Et Seigneur, nous te demandons de nous aider à non seulement reconnaître, Seigneur, ce qui ne va pas dans nos vies, ce qui ne va pas dans notre utilisation de notre corps, mais à nous laisser transformer par ton Saint-Esprit. Que son Saint-Esprit nous aide à aller de l'avant, à faire ce qui est pour ta gloire, à utiliser ce corps pour être ce temple magnifique que tu veux qu'il soit pour ton esprit, Seigneur. Et Seigneur, je te prie pour une visitation particulière ce matin et dans les temps à venir pour que tu viennes nous aider à utiliser notre corps pour ta gloire. Je te prie, Seigneur, aussi que tu nous aides en tant qu'Église à former une équipe où on s'entraide les uns les autres, où on s'encourage les uns les autres, où on prie les uns pour les autres, où on nous aide, on s'entraide à avancer, à aller de l'avant, à faire de belles choses, Seigneur, avec le corps que tu nous as donné. Je te prie que tu mettes ton esprit, que tu renouvelles la confiance entre les uns et les autres, qu'il puisse y avoir de beaux échanges, de belles relations, Seigneur, fraternelles dans cette Église, et que cela soit pour ta gloire, Seigneur. Et Seigneur, merci encore pour tes promesses. Pour tes promesses qui nous accompagnent, cette récompense qui nous attend, cette espérance qui est la nôtre, Seigneur. Et nous voulons fixer nos yeux sur tes promesses, Seigneur, qui nous aident à courir avec persévérance, Seigneur. Merci parce que tu nous promets de vivre l'éternité dans ta présence, Seigneur. De pouvoir, nous voulons nous réjouir avec toi, Seigneur, au jour de ton retour. Et c'est là-dessus, Seigneur, que nous voulons fixer nos regards aussi. Viens renouveler notre espérance ce matin. Viens renouveler notre foi, Seigneur, dans ta parole. Prions au nom de Jésus. Amen.